Matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
Salut à toi, jeune auditrice intrépide. Nous sommes le 29 mai 2024 et aujourd'hui, on va parler de ta vie, des relations et de l'importance de ne rien forcer. Alors accroche-toi, car on va mettre un peu de fun dans ce sujet sérieux. Les discussions, les relations, les potes, l'attention, ce sont des choses simples qui doivent se faire naturellement. Si c'est forcé, ça ne vaut pas le coup de se battre. Si ça passe, ça passe. Si ça casse, ça casse. Et si ça fait mal, laisse tomber. C'est pas censé être comme ça. L'amitié, c'est censé être beau. Une aventure de 2, 3, 4, voire 20 personnes qui se rapprochent autour de sensibilités et d'envies communes. Parfois, il y a des frictions, c'est normal, c'est humain. Mais vous pardonnerez, vous réécrirez l'histoire et vous avancerez ensemble. Parce que tu tiens à eux et eux tiennent à toi. Évidemment, tu auras toujours ce pote qui, quand tu tomberas, se moquera de toi. Mais c'est pour mieux venir t'aider. Tu auras celui qui est perdu quoi qu'il arrive et l'éternel célibataire qui ne comprendra jamais rien à rien. Mais dans tous les cas, ils seront toujours là pour toi. Les discussions sont le socle même des relations sociales. Elles n'ont pas besoin d'être verbales. Il n'y a plus d'un moyen de communiquer. Il y a les jeux de regard, les SMS tard le soir, les signes, les appels et les rendez-vous dans les cafés. S'il y a un blanc, chacun prend le temps de réfléchir et de relancer un sujet et les débats s'enchaînent. Un sujet en amenant un autre, puis encore un autre. Comme ça, jusqu'au coucher du soleil et l'heure de rentrer chez soi. Si tu cherches de l'attention, c'est que les gens autour de toi ne t'en donnent pas assez ou que tu en demandes trop. Au choix, c'est toi qui vois. À trop vouloir briller, tu finiras brûlé près du soleil. L'attention forcée n'attirera que des problèmes et des mauvaises critiques. Accepte les compliments que l'on te fait, mais accepte aussi parfois, tu ne peux pas être au centre de l'attention. Prends ce qu'il y a à prendre et laisse couler le reste. Tu es voué à accomplir de grandes choses et tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. La raison est simple, ils n'ont pas ton courage. Ils n'oseront jamais faire ce que toi tu fais, alors ne les écoute pas, ne les laisse pas te décourager. Souviens-toi que quoi qu'ils puissent dire, rien n'est vrai et quoi qu'ils puissent t'interdire, tout est toujours permis. Tu es ton seul guide et ta seule limite. Et puis il y a les relations. Et là, si c'est forcé, crois-moi, fuis. Ne reste pas en raison d'un quelconque principe moral qui te ferait croire qu'il faut absolument partir, absolument rester. Comme dirait Saint-Exupéry, la mesure de l'amour, c'est s'aimer sans mesure. Mais s'aimer, ça ne se commande pas. Alors comment fait-on? Évidemment, tu vas la blesser. Évidemment, il, elle va te blesser. Mais vous blesserez mutuellement, mais c'est la seule condition de l'existence. Transformer votre relation en un printemps passionnel et un été chaud, c'est accepter de risquer l'hiver. Pour devenir quelqu'un, il faut accepter d'être personne. Alors oui, l'amour en apparence, c'est compliqué, mais finalement, c'est plutôt simple. Est-ce que je te veux dans ma vie? Oui. Est-ce que je vais te chasser? Non. Choisis-moi ou perds-moi, le choix est simple. Tu n'es pas un plan de secours et encore moins un second choix. Alors s'il ne veut pas discuter, s'il ne veut pas te voir, s'il ne peut pas accepter qui tu es, c'est sa décision. Ne force rien. S'il n'est pas là, c'est qu'il y a une raison et souvent la bonne. Tu es trop bien pour lui. Médite là-dessus. Salut, c'est Théo, vous êtes sur Radio Campus Paris et tout de suite c'est la matinale de 19h sur 93.9. Et au programme de cette heure d'émission en direct sur le 93.9, Fabien viendra nous parler des sorties du week-end et puis nous parlerons également de l'addiction aux réseaux sociaux, de la chronique d'Émile Rock. Nous partirons également au pays du court-métrage à l'occasion d'un Zoom dédié à Blackout qui sortira en novembre prochain. Mais tout de suite, nous allons partir au pays de Cannes, du cinéma et de la loi, puisque nous allons parler de l'ouverture de la commission d'enquête parlementaire sur les violences sexistes et sexuelles dans le monde du cinéma avec le collectif 50-50. Le programme de la matinale de 19h est exposé. Installez-vous confortablement dans votre canapé, le RER ou votre voiture si vous êtes dans les bouchons, vous allez vous révolter ce soir. Vous êtes sur le 93.9, c'est la matinale de 19h, vous écoutez Radio Campus Paris, c'est parti.
La matinale de 19h.
Et tout au long de cette première partie d'émission, José-Louis Gilbeau et Laura De Filippo de la rédaction de Radio Campus Paris, bonsoir.
Bonsoir Théo.
Bonsoir Théo.
Et je crois que ce soir vous recevez Marine Longuet du collectif 50-50.
Tout à fait. Alors, chers auditeurs, tristes, ce soir, nous plongeons dans les abysses scintillantes du 7e art. Ah, le cinéma, cette fabuleuse machine à rêver qui nous vend du glamour et des paillettes, mais qui, en coulisses, pourrait bien avoir un besoin de bons coups de balai. Le mouvement MeToo, tel un projecteur impitoyable, a révélé les dessous pas toujours reluisants de cette industrie. Ironiquement, le palmarès du 70e Festival de Cannes a été un véritable kaléidoscope des thèmes et des émotions, récompensant des œuvres qui ont exploré les complexités de l'existence humaine. La Palme d'Or a été décernée à Anora de Sean Baker, qui a mis à nu la liaison tumultueuse entre une escort girl et le fils d'un oligarque russe. Le Grand Prix a été attribué à All Imagine as Light, excusez mon anglais, de Payal Kapadia, un film indien qui a brillamment dépeint les luttes de trois femmes contre les contraintes de la société indienne. Et Jacques Audiard a également été honoré pour Emilia Perez, une comédie musicale saluée pour ses performances féminines exceptionnelles.
Ces films, parmi tant d'autres, ont mis en lumière et magnifié des problématiques sociétales très réelles. Ambiance, vous avez dit ? Alors, que penser de tout ça ? Peut-être que le cinéma, comme toute bonne œuvre d'art, est le reflet de notre société. Une société qui tâtonne, qui apprend, qui évolue. Et si le chemin est encore long, parsemé d'embûches et de faux raccords, l'important, c'est peut-être que le spectacle se poursuive. « Show must go on », dans la langue de Shakespeare.
Alors, afin d'éclaircir le vrai du conte du fait, nous recevons le collectif 50-50, une association française qui lutte pour l'égalité de la diversité dans le cinéma et l'audiovisuel, et qui sera représentée ce soir par Marine Longuet. Bonsoir Marine Longuet.
Ben bonsoir à vous, et merci pour cette introduction réjouissante.
Alors, commençons tout de suite, première question.
Alors, comment les objectifs du collectif 50-50 ont-ils évolué depuis sa création, surtout après l'affaire de Judith Godrèche, initiée par Francesca Pasquini, députée membre d'Europe Écologie Les Verts, et comment mesurez-vous leur impact dans l'industrie cinématographique ?
Alors, c'est très intéressant parce qu'on peut... le collectif 50-50 est donc né en 2018 suite à l'arrivée du mouvement MeToo Cinéma en France. Et actuellement, il y a un vrai virage parce que ce qu'il est en train de se passer, c'est qu'avec ces commissions d'enquête, là où on était observé par rapport à notre application du droit au travail, du droit du travail, nos pratiques, là, ça prend un tournant aussi politique, puisque les politiques, en s'intéressant aux pratiques du cinéma, peuvent se questionner sur ce que ça raconte de notre industrie, mais moi, j'aimerais aussi qu'ils se questionnent sur ce que ça raconte en réalité de la société. Et ça va être intéressant de voir qui, de gauche, qui, de droite, va vouloir prendre des mesures suite à ces commissions d'enquête. Qu'est-ce qu'il va en ressortir ? Qu'est-ce que ça va raconter, et finalement qu'est-ce que du mythe ou de la réalité ou de la triste réalité de notre société actuelle ça peut où est-ce qu'on en est en réalité, voilà.
D'accord. Et est-ce que suite à ça vous pensez que plus largement ça a eu un impact sur le nombre de témoignages des victimes dans l'industrie cinématographique?
Il est tout à fait clair que la prise de parole de Judith Godrèche par voie de presse et lors de la cérémonie des Césars a suscité énormément de prises de parole. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que au moment où Judith Godrèche prend la parole, ça fait déjà plusieurs années que en fait des dispositifs sont mis en place pour recueillir la parole, mais de manière très spécifique, ce qui n'existe pas dans toutes les industries. Dans l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, il y a une cellule d'écoute qui a été mise en place, qui est la cellule d'écoute audience, et donc qui propose une aide juridique, qui propose du conseil et qui propose aussi un accompagnement psychologique. Donc, quand on est un peu à l'extérieur, on a l'impression que d'un coup, il y a un surgissement avec la prise de parole de Judith Godrèche. Donc, évidemment, elle emporte quelque chose, c'est une brèche. Mais en fait, si c'est possible, c'est aussi donc, parce que depuis quelques années, les choses se fissurent. Enfin, les gens parlent à différents niveaux et surtout, en fait, déjà, les institutions, les pouvoirs publics et les syndicats et les associations, les collectifs tels que 50-50, travaillent à ce qu'on appelle la libération de la parole. Moi, j'appellerais ça plutôt le traitement de la parole, en fait. Voilà.
En 2018, le collectif 50-50 a été confronté à une crise majeure. Un membre de votre conseil d'administration a été écarté, puis c'est l'ensemble des autres membres du conseil qui ont démissionné. Comment le collectif est sorti de cette crise ? Comment vous envisagez l'avenir aujourd'hui ?
Alors, on a le collectif fonctionne en fait avec trois membres salariés plus une personne qui intervient ponctuellement pour tout ce qui est communication, et les 14 membres du CA sont donc élus. Donc là, depuis 2 ans, et là on va avoir des élections la semaine prochaine pour renouveler la moitié du CA, il a fallu se remettre de cette crise tout en se disant que c'est pas parce qu'on lutte contre certaines violences qu'il ne faut pas se questionner à l'intérieur même des organismes de lutte, en fait. Donc, tous les membres du conseil d'administration se doivent maintenant de faire une formation à la lutte contre les VHSS. Les VHSS, c'est les violences et les harcèlements sexistes et sexuels. Donc, en fait, on a... au sein du collectif, retravailler les statuts, et aussi on s'est mis des obligations de formation à l'intérieur de notre collectif, puisque nous-mêmes, on demande des obligations de formation sur les plateaux.
Vous êtes doté d'une charte de bon comportement.
Tout à fait. Voilà, donc les adhérents, les adhérentes peuvent avoir accès à ces nouveaux statuts qui sont très détaillés. On a aussi une volonté d'avoir un pouvoir avec justement déconstruit où les prises de décision, il y a plus d'horizontalité. Après, c'est la vie d'un collectif, c'est-à-dire qu'il est né d'un mouvement, il est né de personnes qui étaient à un moment donné dans une certaine situation avec une envie, une capacité de prendre la parole, de réfléchir sur ce qui se passait dans le cinéma. Tout change très vite, il a fallu s'adapter. Moi, je trouve que se prendre les pieds dans le tapis, c'est des choses qu'il faut regarder en face, voilà, ce serait et les politiques aussi qui vont nous questionner sur les violences qui peuvent y avoir dans nos industries devraient, toute la société doit se questionner sur ces violences sexistes et sexuelles qui peuvent avoir lieu n'importe où, mais qui peuvent être repérées et dont on peut aussi faire baisser les risques en fait.
Justement, en parlant de chartes, quel bilan tirez-vous de la présence féminine dans les festivals de cinéma depuis la signature de la charte 50-50?
Alors, on peut constater qu'il y a, en fait, quand les festivals décident de s'impliquer, ils s'impliquent réellement. Alors, pour être tout à fait honnête, moi, sur la, on est plusieurs groupes de réflexion au sein du conseil d'administration. Les études ne sont pas exactement la partie que je maîtrise le plus. Mais ce qu'on peut constater, c'est que quand il n'y a pas de caractère obligatoire à atteindre la parité, par exemple, dans une sélection, ce ne sont pas des choses qui se font naturellement. Parce qu'en réalité, quand on arrive en festival, on a déjà dû passer énormément de filtres, les filtres des études de cinéma, des financements de cinéma, de la pratique de cinéma, qui font qu'on constate déjà que dans l'industrie du cinéma, on n'a pas une égalité, une parité. Donc forcément, quand on arrive en festival, ce n'est pas que de la responsabilité des sélectionneurs, des sélectionneuses, c'est aussi une image du cinéma. Voilà, on n'a pas. Mais voilà,
Ce que vous êtes
on
en train de
remarque que
dire,
quand
c'est
les
que
festivals décident.
c'est ce que vous proposez, c'est d'avoir une sorte de discrimination positive pour qu'on arrive à une parité.
Oui, alors discrimination positive, ça c'est quand on veut avoir des résultats assez rapidement. Donc ça peut être tout à fait nécessaire à certains moments dans des endroits où il y a des empêchements, des plafonds de verre qui empêchent totalement d'accéder pour certaines personnes, certaines minorités à des postes. Tout ça c'est une mesure possible, la discrimination positive, tout à fait. Et après c'est un travail de fond. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose de politique. La discrimination positive, elle peut permettre un effet flash visible. Et après, il faut surtout pas abandonner d'autres endroits où là, il faut faire un travail de fond et se questionner, se dire pourquoi dans les études de cinéma, on a à peu près la parité de genre, voilà, homme-femme, tout en sachant qu'en plus, il y a des identités multiples et qu'il ne faut pas forcément rester sur cette binarité. Et pourquoi ensuite, sur les plateaux, on n'a pas forcément au poste technique. Comme chef op, par exemple, on a fait une étude sur les chefs de poste dernièrement qui est accessible à nos adhérents, nos adhérentes et qui a été publiée. Là, en 2023, ou alors les effets spéciaux, 88% des effets spéciaux, ce sont des hommes. 11% des chefs des effets spéciaux, ce sont des femmes. Donc là, on a vraiment un écart énorme qu'on retrouve dans la production, dans la direction de la photo aussi, de la direction de la photographie. Les chefs op sur les films en 2023, 82% sont des hommes, 18% seulement sont des femmes.
Alors justement, on parlait du Festival de Cannes. Vous pensez quoi justement de parité? Vous pensez quoi de ce palmarès de cette 70e édition qui met à l'honneur clairement les femmes?
Eh ben, je m'en réjouis. Je n'ai pas encore vu les films, donc je ne pourrais pas vous en parler plus dans le détail, mais on sait aussi, enfin, on sait. On attend toujours le palmarès du Festival de Cannes, même quand on n'a pas vu les films, parce que ça, c'est souvent un geste politique, ou pas toujours, justement. On se demande toujours, en fonction de la composition du jury, si ça va être un geste uniquement cinématographique que de décerner tel prix à tel film, ou si ça va être un geste politique et cinématographique. Est-ce que ça va être une volonté de marquer quelque chose très fortement? Donc là, moi, je me réjouis des prix d'interprétation, des thématiques abordées dans les films, voilà, tout en ne les ayant pas vues. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, mais le Festival de Cannes a été le théâtre cette année de beaucoup d'agitation, d'ébullition, de prise de parole et de mouvements de façade et de mouvements réels de, voilà, en interne. Enfin, en interne. Dans l'industrie du cinéma, dans le festival, je ne sais pas.
Pour revenir un peu plus sur le collectif, est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples d'actions concrètes qui ont été mises en place pour promouvoir l'égalité des sexes dans le cinéma ?
Alors, très rapidement, parce que nous avons une pause musicale.
Oui.
Alors, on a mis en place le bonus parité. Si vous allez sur le site du CNC, du Centre National de la Cinématographie, vous comprendrez comment fonctionne ce bonus parité, mais c'est une mesure incitative. Si les chefs de poste, il y a parité entre les chefs de poste, il y a un bonus en argent. Et c'est très motivant. On s'est rendu compte que sur les films à petit budget, les équipes étaient composées de manière à aller chercher ce bonus parité parce que ce n'est pas négligeable, une source supplémentaire de financement. Là où les films à très gros budget vont moins aller chercher ce bonus parité. Mais donc ça, quand, voilà, ce genre de mesures incitatives avec de l'argent à la clé, ça fonctionne et c'est aussi... ça participe d'un état d'esprit sur certaines équipes qui se disent on va jouer le jeu, on va aller là. Et ensuite, c'est bénéfique parce que les gens se rencontrent et continuent à travailler ensemble.
Et on va avoir l'occasion d'en reparler. Vous restez avec nous, Marine Longuet, et toi aussi, cher auditoriste. Tout de suite, on va écouter Bam Bam de Camila Cabello et Ed Sheeran. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see it love. Bam Bam de Camila Cabello et Ed Sheeran, et vous êtes toujours sur la matinale de 19h de Radio Campus Paris.
La matinale de 19h.
Alors, juste avant notre pause musicale, nous étions en train de discuter des violences sexistes et sexuelles dans le monde du cinéma avec Marine Longuet, José-Louis Gilbeau et Laura De Filippo de la rédaction de Radio Campus Paris. Et vous nous expliquiez, je crois, qu'il existait aujourd'hui une incitation financière pour les producteurs de cinéma dès qu'ils respectaient la parité.
Tout à fait.
Et justement, pour rebondir dessus, on voulait savoir si, pour ceux qui ne respectent pas cette parité, il y avait une sanction.
Non. Alors là, pour l'instant, on est vraiment dans des mesures incitatives. Il n'y a pas de sanction. Mais ça, c'était vraiment ce qui concernait la parité. Ce qui concerne la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, les choses sont différentes. Puisque déjà, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est lié au droit du travail et à la loi, tout simplement. Donc, là où on pourrait penser, où certains pensent que le cinéma est un lieu de non-droit ou qui n'est pas soumis aux mêmes règles que la société civile, donc là, il y a une erreur. Hein. On a le... Je dis souvent que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est pas qu'une question d'opinion ou de militantisme. En fait, c'est le droit du travail, tout simplement, pour toutes et tous. Et donc là, ces derniers temps, il y a eu de nouvelles mesures mises en place, et notamment pour accéder au financement public du Centre national de la cinématographie, les producteurs et les productrices françaises se doivent de suivre une demi-journée, une journée de formation à la lutte contre les violences, de prévention plutôt, pour qu'ils soient ensuite à même de mettre en place au sein de leur production, de leur société, des dispositifs de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et qu'ils comprennent leurs responsabilités aussi en tant qu'employeurs. Il ne s'agit pas juste de désigner des personnes ou des agresseurs, ces gens-là en fait sont sous contrat de travail. Et quand on est sous contrat de travail, et qu'on commet des actes hors de propos ou hors de droit du travail, l'employeur se doit de réagir.
Mais du coup, cette formation, elle ne concerne pas tous les postes dans le milieu du cinéma ?
Non, mais la bonne nouvelle, c'est que fin 2023, début 2024, le CNC a acté le fait que l'ensemble de la profession devait être formée. Donc imaginez d'un coup, dans n'importe quelle profession, on dit tous les boulangers, tous les boulangères, toutes les boulangères maintenant vont être formées à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Alors le cinéma étant une industrie avec des caractéristiques qui, on va dire, peuvent favoriser en fait des jeux de dos, enfin des jeux. Malheureusement, des rapports de pouvoir et de domination, de classe, de tout un tas de choses qui sont souvent de célébrités, qui sont souvent des facteurs aggravants dans les violences sexistes, dans le harcèlement. Donc là, il faut évidemment mettre en place des formations spécifiques à l'industrie du cinéma.
Vous parlez de jeu de pouvoir, c'est un peu comme dans une entreprise, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie, dans les entreprises, on ne se permet pas. Est-ce que le code du travail est vraiment respecté sur les plateaux de tournage ?
Non, le premier problème que nous avons, c'est qu'en tant qu'intermittent-intermittente, on n'a pas cette culture de la société, du travail en société.
Tout est mélangé,
on n'a pas de bureau fixe.
Enfin, le privé et le personnel sont mélangés.
Alors, il y a à la fois ça et il y a surtout, par exemple, si vous avez un problème et que vous souhaitez aller voir votre responsable des ressources humaines, on va vous dire c'est au fond à gauche, au bout du couloir. Nous, il n'y a pas de au fond à gauche, au bout du couloir. Okay. Parce qu'on est sur des plateaux, qu'on change les équipes, et il y a une méconnaissance du droit du travail, puisqu'on est souvent en train de se battre pour la défense de notre statut d'intermittent, mais la connaissance de nos droits et de nos devoirs, notre droit du travail, on le méconnaît peut-être un peu malheureusement, et ce qui peut amener aussi à favoriser des comportements qui n'ont pas lieu d'être.
Donc il n'y a pas de communication sur les règles, sur les lois lors d'un tournage. Il n'y a aucune personne qui est en charge de des ressources humaines du plateau.
Alors, en fonction de la taille de la société de production, si c'est un gros groupe qui produit, il doit y avoir un ou une responsable des ressources humaines permanente. Mais nous, quand on est embauché entre 2 et 3 mois, on va peut-être tourner à Marseille, alors que la société a son siège à Paris. Donc, ne serait-ce que même rencontrer physiquement ou trouver le numéro de téléphone de cette personne, il faut s'imaginer qu'on est plein de petits détachements. Donc là, ça pose un problème. Et puis après, c'est vrai qu'en général, quand on commence un tournage, le temps de tournage en ce moment se réduit pour des histoires de coûts, parce que là où il y a plus d'argent, il y en a de plus en plus, mais le rythme de tournage était freiné. Et là où il y en a moins, il y en a moins. Et donc, on consacre souvent tout notre temps à la préparation de notre travail de fabrication du film, et on n'a pas d'heures qui pourraient être malheureusement attribuées, enfin, malheureusement, on n'a pas d'heures qui sont attribuées à la lecture de la convention collective, du droit du travail. Parfois, les stagiaires arrivent et ils sont tout de suite mis dans un rythme de travailleurs, là où on devrait prendre peut-être le temps de leur dire: as-tu lu tes droits? As-tu lu la convention collective? Que connais-tu des ressources en cas de problème pour toi? Donc là, c'est en train de changer. Il se passe des choses incroyables, donc il faut être aussi, moi je suis quand même optimiste. Il y a, avec l'impulsion des collectifs, des syndicats, des, on va dire, initiatives personnelles, de gens qui se disent la formation elle est gratuite, parce qu'on peut aussi, avant qu'elle soit obligatoire pour tout le monde, on peut accéder à une formation de 3 jours qui nous donne les bases à n'importe quel intermittent, intermittente, de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Comment les repérer, savoir comment faire, comment qui prévenir. Donc il y a des gens sur initiative personnelle qui décident de se former. Donc ça crée de la discussion, ça crée des remous et surtout ça crée des stops, ça crée des non. On dit non maintenant. Et surtout, ce qu'il faut maintenant, c'est se mettre en solidarité les unes avec les autres, les uns avec les autres, les unes avec les uns. Faut voir comment ça fonctionne. Mais c'est ça sur le plateau maintenant, faut il faut qu'il y ait de la solidarité pour pouvoir faire face aux différentes violences.
Et est-ce que vous direz que le cadre est aussi flou aussi concernant les mineurs?
Alors, en réalité, encore une fois, le cadre, il n'est pas du tout flou pour les mineurs. Il est seulement méconnu et pas appliqué. Et pourquoi il n'est pas appliqué? Ça fait des années, en fait, qu'on est quand même dans des politiques qui visent à supprimer des fonctionnaires ou des rouages de la société qui sont très importants. L'embauche d'un mineur, elle est supervisée par les services de protection de l'enfance. Actuellement, c'est les services de protection de l'enfance. Je pense que ce ne sont pas les services qui sont les plus en forme avec les attributions de budget les plus hautes. Peut-être que les politiques, au lieu de se dire ça ne fonctionne pas, ils ne respectent pas la loi, devraient se dire mais moi je travaille avec des enfants sur les plateaux en tant que responsable enfant. Dans la convention collective, le poste d'encadrante enfant, encadrant enfant existe, il est défini. Pourquoi sur les plateaux on n'a pas des personnes au bon endroit? Il y a des questions de budget, il y a des questions de production, réalisateur, réalisatrice, producteur, productrice, qui en fait n'ont pas décidé de se poser des questions. Voilà, tout simplement, des gens qui le matin se lèvent et font comme ils pensent, sans se renseigner, sans se concerter et sans se référer à la loi. Ça, c'est un vrai problème. Et il y a aussi, moi, par exemple, demain, sur un tournage, si je considère que l'enfant comédien joue devrait, à la fin du film, peut-être avoir une consultation avec un généraliste ou un psychologue pour évaluer son état, voir l'impact du tournage, je vais appeler, je ne vais pas avoir de réponse. Parce que je vais tomber sur une plateforme de santé, voilà. Il y a des rouages qui manquent dans la société pour tout le monde et aussi dans le cinéma, et ça se répercute sur notre qualité de travail et la sécurité des mineurs.
Alors, vous parlez de plus de suivi sur le plateau, de suivi hors plateau par un professionnel de la santé. Alors, cette enquête, il est écrit qu'elle va évaluer la situation des mineurs, mais concrètement, c'est voilà, vous avez commencé à donner des pistes, mais est-ce qu'il y a d'autres points forts sur lesquels cette commission va statuer?
Alors, il y a des auditions en cours. Je suis à la fois curieuse et dubitative. C'est toujours bien une initiative qui vise à enquêter pour comprendre. Moi, j'ai un très grand questionnement. La société, dans son ensemble, doit se questionner sur les violences sexistes et sexuelles. Ne laissons pas croire que le milieu, l'industrie du cinéma serait un endroit où se pratiquent des choses incompréhensible au reste de la société. C'est faux. En fait, quand il y a des violences sexistes et sexuelles, c'est un problème de société, de classe, de capitalisme, c'est un problème de violence entre les personnes. Et évidemment, dans l'industrie du cinéma, il y a des spécificités qui aggravent ces choses-là. Quand un producteur tout-puissant se comporte comme auprès de comédiennes, il sait qu'il est dans son pouvoir. parce que voilà, il a le pouvoir d'attribuer des rôles, il a le pouvoir d'organiser des rendez-vous n'importe comment, comme ça ne se produirait jamais un entretien d'embauche dans une chambre d'hôtel. Bref,
En effet, on
évidemment
est,
qu'on a.
Comme vous disiez, c'est-à-dire qu'on est dans un système hiérarchisé où les plus forts, les plus célèbres dominent en fait le reste. Mais justement, pourquoi ces personnes arrivent à s'affranchir de ce code du travail alors qu'il y a un délit avéré, quoi?
Bah, ça, de la même manière, les spécificités du cinéma, par exemple, un tournage qui dure 2 mois, une personne qui vit une violence sexiste ou sexuelle, il y a le temps de la sidération, il y a le temps de se rendre compte de ce qui s'est réellement passé, il y a le temps de reprendre ses esprits, il y a le temps de se dire si j'arrête le film, je ne fais pas mes heures. Donc à la fin du mois, mon statut d'intermittent ne veut pas être conduit. Donc ça, c'est nos spécificités qui nous fragilisent. Le fait qu'on n'est pas en CDI, par exemple. Le fait que, il faut le temps pour se rendre compte qu'on a vécu une agression et que quand on tourne en dehors de chez soi, qu'on n'est pas entouré de sa famille et ses proches, on va avoir du mal à se rendre compte forcément qu'on a vécu une agression. Le temps de réagir, toute l'équipe s'est disséminée à droite à gauche. Il est difficile ensuite de faire mener une enquête. Faut-il aller à la police? Faut-il aller voir le producteur en fonction de la gravité des faits? Donc ça, on est en train de réfléchir là-dessus. Les associations professionnelles et les syndicats, des choses se mettent en place. Il y a eu des faits d'agression ces derniers temps qui ont été traités sur les tournages par les productions, par les équipes qui ont été portées à la justice ou qui ont été traités par les productions et les institutions qui se doivent de se pencher là-dessus.
Alors, donc, excusez-moi de vous avoir coupé. Merci pour cette interview. Le temps est écoulé, mais merci beaucoup. Vous avez répondu à beaucoup de questions. On espère que ça a été tout aussi agréable et très constructif pour vous.
Tout à fait. Je vous remercie de m'avoir invité.
Merci beaucoup, Marine Longuet, d'avoir accepté l'invitation de la matinale de 19h. Une chose est sûre, c'est que le débat n'est pas clos et qu'aujourd'hui, ce sera à la justice de trancher. Tout de suite, chers auditeurs, toi et moi, on va écouter Calvin Harris et Ellie Goulding. Ça s'appelle Miracle.
When you hold me, there's a place I go. It's a different high. Oh no, when you touch me, I get vulnerable in a different light. Oh no. We'll be right back.
Miracle de Calvin Harris et Ellie Goulding, et vous écoutez toujours la matinale de 19h de Radio Campus Paris.
La matinale de 19h.
Et je crois désormais que... Émile Rock, tu viens nous parler d'une addiction aux réseaux sociaux.
Exactement. Bon, n'en voulez pas pour cette chronique pas finie. Mais en fait, hier soir, je devais écrire, mais à la place, je me suis perdu dans les yeux de l'amour. C'est faux. J'aurais bien aimé, mais malheureusement, j'étais seul hier soir. Et je me suis senti seul. Donc, à la place, je me suis perdu dans les tréfonds d'Instagram. Je me suis perdu dans les tréfonds d'Instagram comme un petit drogué qui avait besoin de sa dose de « Oh, ça va, j'ai le droit, juste 10 minutes. Qu'est-ce que c'est, 10 minutes, c'est pas grand-chose. Laisse-moi rire. » Une heure après, j'étais toujours sur mon canapé à me dire « Allez, Émile, plus que 10 vidéos et t'arrêtes. » Et à la 10e vidéo, tour de magie, le compteur s'était remis à zéro. Vous voulez une situation un peu triste? Des fois, je scrolle tellement que je deviens un zombie, sans réaction devant les vidéos depuis une heure, quand tout d'un coup, une vidéo vraiment marrante arrive. Je rigole, m'entendre rire me surprend et me fait réaliser à quel point la scène est triste. Parce qu'en fait, à la base, je voulais me coucher tôt alors que là, il est 3h du mat et que demain, je vais passer une journée de merde. Sur Insta, j'y passe environ 2 heures par jour. Ça fait 14 heures par semaine, 56 heures par mois et 762 heures par an. Alors, je vous vois déjà arriver, les rageux, avec vos « Gne gne gne, t'aurais autant de temps, t'aurais pu apprendre une langue étrangère. Et toi, combien de temps tu as perdu à nous casser les couilles ? Quanto tiempo has pasado a nous casser les couilles ? Assez de temps pour perdre tes amis, apparemment. Alors, oui, je suis accro, alors que pourtant, je me suis vraiment mis tous les bâtons dans les roues pour ne plus aller sur Insta. Actuellement, j'ai deux applis qui m'obligent à attendre 5 secondes à chaque fois que je veux ouvrir l'appli. Et mon téléphone me bloque toutes les 15 minutes pour me dire qu'il faudrait peut-être arrêter les conneries et aller faire quelque chose de ma vie. Mais t'es qui pour me juger, petit téléphone intelligent, smartphone ? T'es qui ? Je te remplace quand tu veux, moi. C'est encore faux. J'ai acheté un Nokia 3310 à 9 touches. En vrai, c'est de la merde. À part jouer à Snake et à perdre 3 minutes pour envoyer un message, ça ne sert à rien. Je l'ai utilisé une semaine, puis ça m'a fait chier, donc je t'ai récupéré. Désolé, bébou, s'il te plaît. Pardonne-moi, petit smartphone, je voulais pas te trahir. Non, je te jure, Bebs, c'est toi que je préfère. Je vous avais dit que ma coloc m'avait mis à Secret Story. J'adore cette émission. Ces applis pour te forcer à arrêter Insta ne fonctionnent pas. Même si ces 10 secondes sont horripilantes, je continue de vouloir scroller. Je pense honnêtement que pour que ces applis fonctionnent, il faudrait qu'elles décrivent la première vidéo de ta For You page à voix haute. Tu sais, on rentrerait dans le métro et d'un coup, on entendrait un « joli chiot, race cocker, court après une balle de tennis et chute ». Puis à côté, t'aurais un « grosse fesse dandinant ». Ah bah d'un coup, on serait un peu plus frileux de scroller dans le métro. Et peut-être qu'on se mettrait à lire, grosse parenthèse, on en parle des gens qui lisent dans ce métro ? Mais vous croyez qu'on vous voit pas avec votre petit regard satisfait de « ah ouais, moi je suis mieux que les autres hein. ». Non, mais vous avez vu tous ces cerveaux lobotomisés ? Les gens, on dirait des robots, quoi. Même dans les escalators, les gens, ils regardent leur série. C'est quoi la prochaine étape ? Ils regardent leur série au boulot aussi ? Et non, car regarder Netflix au taf, ça s'appelle le télétravail. Bon, je transgresse bien pendant que ma chronique, elle, ne progresse pas. Contrairement au Front National ou à ma calvitie qui, eux, font une alliance pour gagner dangereusement du terrain. Donc allez voter le 9 juin pour éviter que les frontières soient remises au goût du jour, parce qu'après, ce sera une tannée pour aller me faire une implantation en Turquie.
Merci beaucoup, Émile Roux, pour cette chronique. 19h39 et la matinale de 19h, c'est pas fini sur le 93.9.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et le Zoom de ce soir est présenté par Guilhem Berthollet de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Guilhem.
Bonsoir.
Et je crois que ce soir tu reçois Lola Poisson pour son court-métrage intitulé Blackout. Bonsoir.
Bonsoir.
Exactement. Donc elle est étudiante en cinéma au conservatoire du 18e arrondissement de Paris. Donc Lola Poisson va réaliser son premier court-métrage dont la maison étudiante qui héberge Radio Campus Paris est partenaire. Le film donc évoquera les violences psychologiques au sein du couple ainsi que le sujet des viols conjugaux. Donc ça s'appelle Blackout. Tournage en juin, sortie en novembre. Lola, est-ce que tout est prêt ?
Tout n'est pas totalement prêt. On a une équipe qui est prête. On a le casting qui se fait cette semaine. Les résultats devraient arriver d'ici la semaine prochaine. Et là, le gros travail avant de tourner, c'est de pouvoir trouver des financements, des partenaires pour pouvoir payer tout ça. Parce que, mine de rien, même un court-métrage de 20 minutes coûte beaucoup d'argent.
Sur le casting, tu as eu, pour l'instant, tu as eu combien de candidatures ?
Bon, je pense qu'on est aux alentours de 200-250 pour aller trois rôles.
C'est beaucoup.
C'est énorme pour un court métrage, disons, qui est bénévole, personne n'est rémunéré. C'est énorme.
Qui sont les trois personnages justement que tu cherches Qui sont les trois personnages donc que tu cherches
Je cherche le personnage de la maman du personnage principal qui s'appelle Claire et un policier macho qui est vraiment un point central dans le court-métrage pour montrer qu'il y a de l'injustice et que bah, souvent, même par la justice, on n'est pas pris au sérieux, surtout quand on est en couple et marié. Les violences psychologiques et le viol est difficile à prouver et moins pris en compte.
Comment est-ce que tu raconterais l'histoire justement de ton prochain film ?
Donc c'est l'histoire de Claire qui vient juste de se marier à son premier amour Mike, qui depuis ce mariage commence à la manipuler pour obtenir des relations intimes, sexuelles avec elle, alors qu'elle n'en a pas forcément envie. Et elle se perd entre son amour et la manipulation et la violence qu'elle vit. Et elle se rencontre par sa mère, et qu'elle comprend que bah, avec son père, c'était pas pareil, et que bah, tous les hommes ne sont pas comme Mike est. Et elle veut sortir du silence, mais elle va subir une petite injustice et je ne raconterai pas la fin.
Alors, je disais en introduction, tu es également actrice, tu fais des études donc, en cinéma, donc tu es comédienne.
C'est ça.
Justement, l'un de tes personnages, donc, c'est celui du mari violent. Une question que je me posais, c'est comment est-ce qu'un comédien peut s'approprier le rôle d'un agresseur ?
Alors, c'est compliqué, c'est des étapes à passer. Par exemple, moi, mon acteur, je lui ai donné un livre qui m'a permis de justement construire l'écriture de mon personnage, de Mike. C'est le livre qui s'appelle « Pourquoi fait-il ça ?» de Lindy Bancroft, qui est un thérapeute qui a suivi des maltraitants tout au long et résume tout un tas de profils de maltraitants, comment ils agissent, pourquoi, comment ils sont dans leur tête. Et c'est ça que j'ai donné à mon acteur pour qu'il puisse se mettre dans la peau du personnage. Parce que oui, quand on... parce que je résume, hein, quand j'ai pris mon acteur, il n'était pas violent. Il est très gentil, il est adorable. Non, c'est du travail, il faut psychologique.
Et sur le tournage, comment sera un peu positionnée la caméra ? Est-ce que c'est finalement la vision, est-ce que tu veux donner une vision neutre de la caméra, une vision plutôt au contraire du côté de la victime ?
Alors, question artistique et de la caméra, ça sera beaucoup de gros plans. En fait, je cherche que le public et le spectateur se sentent opprimé, en fait, qu'il ait la sensation de celle qui ressent ça, mais pas forcément d'un point de vue subjectif. C'est vraiment des sensations de malaise et par du gros plan, vraiment, et artistique, puisque moi, j'ai souvent, quand on regarde un film qui traite des violences conjugales, on a souvent des couleurs un peu ternes, un peu grisâtres. Moi, je casse ce code-là en rajoutant des lumières hyper vives. Dès qu'on entre dans le danger, ça va être le rouge qui va tout de suite prendre présence, parce que qui renforce le côté de... Nous, quand on est dans la violence psychologique, on ne s'en rend pas forcément compte. Et le fait de rajouter la lumière rouge à ce moment-là, c'est le spectateur va dire « Ah, là, il y a danger. » Alors qu'il n'a pas forcément frappé à ce moment-là.
Et comment justement, tu parlais des candidats que tu as eu donc 250 candidats à caster. Autant de personnes castées d'ailleurs ?
Non, on fait déjà un premier tri par les CV, par les bandes démos qu'on reçoit. Des fois, on ne reçoit pas du tout dans les 250 candidatures, ce n'était pas le profil qu'on attendait. Je pense que sur 250 candidatures... je dois voir une quinzaine de personnes.
Et ces personnes, qu'est-ce qu'elles te disent justement sur ce film, sur ce scénario? Est-ce que c'est un sujet qui les tenait énormément à cœur pour jouer? Qu'est-ce qui les a poussées?
Je pense que le sujet a fait qu'il y a eu beaucoup de candidatures, premièrement. Et oui, quand je reçois les gens, ils sont là, oui, c'est bénévole, mais la cause m'intéresse de fou. Et voilà, c'est vraiment le sujet qui intéresse en ce moment.
Et je disais aussi que donc, tu souhaites inscrire le film pour les Césars en 2026. est-ce que pour toi, justement, le sujet des violences conjugales, aujourd'hui, c'est assez abordé dans le cinéma?
Ça commence. Ça commence, mais en fait, le sujet peut être traité de tellement de manières différentes parce que, par exemple, moi, mon court-métrage s'inspire de faits réels, de faits que j'ai ressentis. Donc moi, je l'écris d'une façon dont moi, je l'ai ressenti. Mais si quelqu'un devait en parler, mais ça serait parlé, ça en parlerait autrement. Donc non, je pense que ça peut encore être plus développé et voilà.
Et quels sont les films qui t'ont inspiré justement pour faire toi, ton propre court-métrage? Il y a des réalisateurs, des films en particulier?
Alors le film que je cite en particulier, c'est vraiment dans la gestion artistique, c'est vraiment le film Titane. Je sais pas si...
Est-ce que tu peux nous parler de ce film?
Alors, je suis pas du tout très cliente de ce genre de film parce que c'est très violent. Mais dans la question artistique et des lumières, je le trouve incroyable. Et c'est de ça que je m'inspire, de ces lumières un peu vives. On va retrouver dans mon court-métrage.
Et qu'est-ce qui a déclenché chez toi, alors, donc de comédienne, te dire, première chose que je vais faire en sortant de moi du conservatoire, c'est de réaliser un film et non pas de jouer.
Alors, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre, mais en fait, il faut savoir que le scénario date de 2022. Je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. J'ai beaucoup de scénarios en stock, mais j'étais jamais passée à l'acte parce que ça m'intéressait pas. Moi, c'est vraiment actrice que je veux faire. Mais à force de faire des courts-métrages, étudiants, pas étudiants, de faire des projets qui ont plus ou moins des moyens, et que des fois, je suis pas satisfaite de ce que... enfin, faut le dire, des fois, il y a des moments où je suis pas satisfaite de ce que je vois, je peux pas utiliser les images, etc. Je me dis, mais j'ai des scénarios, j'ai un message à faire transmettre. Moi, la réalisation, c'est vraiment pour transmettre un message. Je fais pas.
Et ce message, c'est quoi?
C'est que faut faire attention à soi, même si on est amoureux. Vérifier bien que c'est la bonne personne et que c'est pas dès que on a une gifle qu'on est en danger. On l'est bien avant.
Dans ton film, je voyais aussi qu'il y a un lieu que tu as déjà choisi, qui sera un gîte donc à la Chapelle sur Dun.
C'est ça.
C'est en Normandie, ça a été loué spécialement pour l'occasion, du tournage qui a lieu du 22 au 26 juin. À quoi ressemble ce lieu?
C'est vraiment un petit gîte, hyper cosy, très campagne. Et voilà, c'est la nature qui prédomine et puis on est bien tranquille pour un tournage, c'est super.
C'est toi, quand tu l'as visité, c'est quoi qui t'a attiré
Ce qui m'a permis vraiment de le choisir, j'avoue, c'est la salle de bain. Ça paraît bizarre, mais il y a une scène dans la salle de bain avec une baignoire à la fenêtre et ça m'a vraiment inspiré une scène et j'ai dit il me faut ce gîte-là.
Dernière question, où pourra-t-on voir ton film?
Alors, il sortira en novembre dans un cinéma à Dieppe. En Normandie, ce sera la première projection parce qu'on a un partenariat avec la mairie, donc c'est eux qui nous permettent de pouvoir le projeter à cette occasion.
Très bien.
Eh bien, merci beaucoup Laura Poisson et Guilhem Berthollet pour ce Zoom. Et je crois que maintenant, c'est l'heure de ta chronique, Fabien, où je crois que tu viens nous parler des sorties de ce week-end, c'est bien ça?
Oui, tout à fait, bonsoir. Et donc, j'ai un micro. Et donc, je vais vous parler de La Nuit Blanche.
donc ce week-end, c'est ce samedi. La Nuit Blanche 2024 à Paris et en région parisienne, donc c'est ce samedi 1er juin 2024. Donc il y a une multitude d'événements gratuits répartis sur différents parcours et cette nouvelle édition nous réserve de belles surprises. Par exemple, le quartier jeune accueille une exposition créative réalisée par les jeunes talents de l'EPSAA, l'école publique de la ville de Paris, est un établissement entièrement tourné vers les formations en communication visuelle. Carte blanche donc aux étudiants pour exprimer toute leur créativité au sein de l'ancienne mairie du 1er arrondissement à l'occasion de la Nuit Blanche. C'est au quartier jeune, 4 place du Louvre, à Paris dans le 1er arrondissement. À l'occasion de la Nuit Blanche 2024, le Learning Planet Institute accueille l'installation immersive Rising du duo artistique Mouawad plus Laurier. Venez découvrir cette œuvre poétique et engagée qui sensibilise à la montée des eaux et au réchauffement climatique dans un cadre où l'art rencontre la science. Rising est une expérience artistique immersive qui explore la montée des eaux et la vulnérabilité humaine face au réchauffement climatique. À travers une installation sonore et lumineuse, Maya et Cyril nous plongent dans une sensibilisation poétique et profonde. L'occasion également de découvrir une œuvre marquante tout en participant à un dialogue essentiel sur notre avenir commun. C'est au Learning Planet Institute, c'est au 8 bis rue Charles V, dans le 4e arrondissement de Paris, évidemment. Parmi les lieux à ne pas manquer lors de cette nuit blanche, Fluctuar mérite une attention particulière. Ça a ouvert en 2019 et Fluctuar est le premier centre d'art urbain flottant au monde, ancré au cœur de Paris, sur la Seine. Il accueille RL Polychrome le samedi 1er juin 2024, donc de 19h à 20h30. RL évolue du graffiti vers une abstraction géométrique. En 2006, il transforme son tag en emblème visuel modulable et reproductible. Sa signature devient une forme identifiable, simple et vivante. La conception de cette fresque s'est faite afin de s'inscrire au mieux dans le contexte des Jeux Olympiques. Fluctuar, c'est au port du Gros Caillou, dans le 7e arrondissement de Paris. Et enfin, pour conclure, un œil gigantesque nous observe au Musée des Arts et Métiers à Paris. Les interactions sont premières. X mètres, soit avec le collectif des vues de l'esprit des expériences art-sciences qui s'appuie sur des décalages de réalité pour éprouver notre rapport au monde et aller à la rencontre du public. L'installation L'œil du soleil mêle science, technique imaginaire et rêverie pour cibler la relation particulière que l'humain entretient avec le cosmos. Œil gigantesque dont le comportement s'apparente à celui de l'œil humain, il met en scène notre soif de connaissance et de découverte de notre environnement. Curieux, l'œil observe et suit du regard les visiteurs qui arrivent et s'approchent. C'est en partenariat avec l'IRAM, le LabStick, l'IASM, le LIMSI, le CNRS et l'Université Paris Sud. C'est juste une sélection. Vous pouvez retrouver le programme sur paris.fr. Les années précédentes, un dépliant du programme était également distribué à la mairie de Paris, au métro Hôtel de Ville, ligne 1 et 11. Passez donc une bonne nuit blanche et à bientôt pour de nouvelles sorties culturelles.
Eh bien, merci beaucoup Fabien pour tous ces rendez-vous qui nous sont donnés. Et bien toi, chère auditeurice, je crois que l'heure est venue de clore cette matinale de 19h. J'espère que cette émission a capté ton attention, t'ouvre la porte à l'exploration de nouvelles connaissances. Aujourd'hui, tu en sais un peu plus qu'hier et demain, tu en sauras encore plus. Un immense merci à Marine Longuet pour avoir illuminé notre antenne avec ses perspectives pertinentes sur la commission d'enquête parlementaire sur les violences sexistes et sexuelles dans le monde du cinéma. Et un chaleureux applaudissement à José-Louis Gilbeau et Laura De Filippo pour leur collaboration inestimable, qui sont une trame précieuse tout au long de cette première partie d'émission. N'oublions pas de saluer Émile Rock pour sa chronique captivante sur les dangers d'Instagram et des réseaux sociaux et exprimons notre gratitude envers Guilhem Berthollet et Lola Poisson d'avoir participé au Zoom dédié à son court-métrage Blackout. Pensons également à Fabien pour sa chronique passionnante sur les sorties du week-end et tout ceci n'aurait jamais été possible sans l'aide précieuse de notre complice Clément Lotz qui a ouvert les micros de la matinale rien que pour toi, cher auditeuriste, et permettant nos échanges. Une reconnaissance toute particulière est dédiée à Héloïse Robert, Lucas Corroy et Inès Meiris, les architectes de notre émission, coordonnant avec Maestria l'ensemble de nos activités. Ce sont eux qui se consacrent à dénicher nos invités, insufflant ainsi une vitalité dynamique à nos programmes d'actualité rien que pour toi. Et enfin, un immense merci à toi qui nous honore de ta précieuse présence toutes nos soirées à 19h. Grâce à toi, nous apprenons, évoluons et nous efforçons de traiter des sujets qui t'animent. Tu es notre source d'inspiration, notre muse et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Mais reste avec nous, car tout de suite, tu as rendez-vous avec Extérieur Nuit, l'émission cinéma de Radio Campus Paris. Alors Elisabeth, c'est quoi le programme ce soir?
Le programme, c'est le retour du Festival de Cannes, une édition un peu tiède dont on fera le palmarès et on vous parlera des films qui sont sortis en simultané dans les cinémas, donc c'est-à-dire Furiosa, le nouveau Mad Max, Marcello Mio de Christophe Honoré et La Belle de Gaza. Et puis on vous parle aussi de Memory et d'une série qui s'appelle Bodkin.
Eh bien voilà, le programme est donné. Prends ton pop-corn, cher auditeuriste, tu as pas mal de choses à voir juste après. La matinale de 19h, elle revient en toute exclusivité pour toi dès demain sur le 93.9 et 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur radiocampusparis.org. Avant de nous quitter, souviens-toi de ceci. Peut-être te dis-tu que tu es trop bien pour toi, peut-être ne te sens-tu pas réellement à ta place dans ce monde, peut-être te dis-tu que tu ne mérites pas tout cela, que tu ne fais qu'être toi-même. Rappelle-toi que pendant que tu te dis tout cela, les autres, eux, admirent ton courage, ton dévouement, ta loyauté, ton amitié et tes projets. Tu vaux le coup et tu es la plus belle personne que je connaisse en ce monde. Je te dis à plus tard et surtout, enjoy.